Merci de choisir Radio Ndikiluka pour vous informer. Il est 13h à Bangui et nous vous invitons justement à suivre le journal en français et en sango, une présentation de Rolf Steve Domialu. Rolf, bonjour.
Bonjour Verdiane, bonjour à tous. À la une, encore un incendie au kilomètre 5. Un grand dépôt collectif du marché a été ravagé par le feu ce matin. Dans ce journal également, cette indignation du PCUD de Patrice Edouard Ngaïsona pour ce parti politique, le procès fixé au 9 février 2021 est une manière de priver M. Ngaïsona de sa liberté. Et puis à Berberati, l'organisation des femmes centrafricaines s'investit pour l'enregistrement massif des femmes sur les listes électorales. En sport, l'Assemblée générale élective de la Fédération centrafricaine de football se tient en ce moment à Bangui. À suivre Régis Lionel Donda, ministre de la Jeunesse et des Sports, à la fin de ce journal.
Rolf, les commerçants du kilomètre 5 dans le 3e arrondissement de Bangui frappés par un incendie.
Des flammes ont ravagé un grand dépôt au marché Sambo ce lundi 20 juillet. Bonaventure Ngomba Katikou a été sur les lieux, il nous en parle.
Selon les constats, c'est un grand dépôt collectif complètement ravagé par ces flammes dont on ne connaît pas l'origine. Les feux ont déclenché à partir de 4 heures du matin. Certains jeunes des environs ont accouru pour prêter main forte. Plus d'une demi-heure après, l'incendie a été circoncis par une équipe de sapeurs-pompiers. Mamadou Sambo, chef du quartier Sambo et responsable du dépôt, présente l'ampleur des dégâts.
Il y a beaucoup de marchandises diverses. Il y a l'arigot, il y a l'arachide, il y a les mines et le natron. Ils sont de tout ici. Le natron, il y a un nombre de 300 sacs. Et puis l'arigot, il y a 150 sacs. Et puis l'arachide non décortiqué, on a 200, quelques sacs comme ça. Ça fait même à peu près 7 à 6 mois. On a les sésames, presque 50 quelques sacs de sésame. Là, les valises et les pinets, là, c'est les gens. Lorsqu'il y a le problème le 5 décembre, là, ben, il y a quelqu'un qui a payé ça pour garder, il va ramener pour vendre ça au niveau des Tchad. Le fait a pris ça, là. Ouais, la toiture. Tout ça, c'est tout brûlé. Il y a l'autorité, il faut voir ça. S'ils ont le courage, nous aider, on entend. On ne peut pas forcer l'autorité.
Tout court, Yaya, un des commerçants, déplore le fait que certaines personnes mal intentionnées ont profité de cette situation pour dérober des effets. Les installations commerciales auraient besoin de quelques dispositions sécuritaires pour éviter de telles éventualités à l'avenir.
Bonaventure Ngomba Katikiro sur Radio Ndekeluka.
Le Parti centrafricain pour l'unité et le développement monte le ton après la publication de la date du procès de son président Patrice Edouard Ngaïsona.
Pour le PCUD, cette date fixée au 9 février 2021 est une manière de priver M. Ngaïsona de sa liberté. Le mouvement politique s'inquiète également du silence du gouvernement face à cette affaire devant la CPI. Au micro de Inès Lorngopo, Samson Ngaïbona, secrétaire général du PCUD, se dit indigné.
Tout le monde avait pensé que le procès devait avoir lieu en l'an 2020. Mais à notre grande surprise et à la surprise de tout le peuple centrafricain, le procès est prolongé pour février 2021. C'est pour dire que notre président Patrice Edouard Ngaïsona va continuer toujours à souffrir moralement là où il est détenu à la haie. Et nous sommes en colère parce que depuis qu'il a été arrêté, le gouvernement centrafricain et le président centrafricain, le professeur Faustin Archange Touadéra, ne s'est même pas prononcé sur la situation de Patrice Edouard Ngaïsona. Et ça nous inquiète et ça nous amène à nous poser plusieurs questions. Pourquoi ce silence du gouvernement centrafricain? Est-ce que Patrice Edouard Ngaïsona n'est pas centrafricain? Est-ce que Patrice Edouard Ngaïsona est un malfaiteur? Loin de là. Nous avons vu des mercenaires que le gouvernement centrafricain est en train de les protéger. Ils sont en train de tuer le peuple centrafricain. Je fais allusion à Abbas Sidiki actuellement dans Wam et Wam Pene. Pourquoi ne pas se prononcer pour un centrafricain qui est arrêté à l'extérieur? Nous pensons que ce procès devait avoir lieu en 2020 et c'est ce que tout le monde attendait parce que nous voudrions voir clair dans ce dossier.
Patrice Edouard Ngaïsona a été arrêté le 12 décembre 2018 en France et transféré à la CPI le 23 janvier 2019. Il est accusé de crimes de guerre et crimes contre l'humanité qu'il aurait commis entre 2013 et 2014 en RCA.
Rolf, venons-en à cette réaction des députés centrafricains sur les frais de délivrance de la carte nationale d'identité.
Pour les élus de la nation, les frais sont exorbitants. Ils exigent du gouvernement l'abrogation de l'arrêté du ministre des Finances fixant la grille tarifaire de la carte d'identité nationale et de carte de séjour en Centrafrique. Position exprimée lors de la clôture de leur 15e session extraordinaire à Bangui. Armando Yangendi.
Les députés ont opposé à l'unanimité à une fin de non-recevoir la grille tarifaire en vigueur. Un recadrage justifié par le vote des élus qui fixait à 4500 francs CFA alors que l'arrêté ministériel fixait à 6750 francs CFA la carte d'identité. Autre point, la carte de séjour pour les étrangers passe de 50 000 à 250 000 francs CFA. Pour les députés, c'est une augmentation de trop. Hiérarchisation de normes oblige, aucun envoyé n'est plus grand que celui qui l'envoie. Augustin Agou, député du 1er arrondissement de Bangui, dénonce une violation flagrante de la loi.
Mais justement, puisqu'il a signé, l'arrêté est là. Le ministre des Finances a signé. Or, normalement, il ne devait pas dû signer. Et nous avons fixé ce document national à 4500 francs CFA. Et si vous dites que les gens payent aujourd'hui à 6000 francs CFA selon l'arrêté, et en plus, les informations que nous avons, dans en tout, 6750. Prenez les 2250 francs multipliés par 1 million ou 2 millions de francs CFA. Vous voyez l'argent qu'une entreprise privée va engager sur le dos du peuple centrafricain qui souffre aujourd'hui.
Pas question, cet arrêté doit être abrogé. Martin Ziguele, allié du président Touadéra, s'y oppose.
Les dispositions de la loi sont impératives et il faut l'expliquer à tous les membres du gouvernement pour que désormais nous ne puissions pas nous retrouver en face d'un membre du gouvernement ou deux membres du gouvernement qui prennent un arrêté en violation flagrante des dispositions de la loi des finances. Donc il faut qu'on soit clair là-dessus, cet arrêté est illégal, il est de nul effet. Il ne doit pas être appliqué, il doit être abrogé.
En réponse, Henri-Marie Dandra, ministre des Finances, affirme que cet arrêté n'émane pas de lui. Les députés ont dénoncé les rackets liés aux documents dont font l'objet certains compatriotes sur les barrières. Des policiers et gendarmes procèdent déjà au contrôle des cartes d'identité alors que des imprécis restent encore à régler. Ces porteurs de tenue exigent à tous ceux qui n'en ont pas de payer des amendes allant jusqu'à 12 000 francs CFA. Affaire à suivre.
Et puis bonne nouvelle pour la population centrafricaine, le gouvernement s'engage à construire un hôpital de 250 lits dans le 7e arrondissement de Bangui.
Le projet financé par le fonds saoudien prend aussi en compte la clôture de l'université de Bangui. La signature de l'accord a eu lieu vendredi dernier en présence des ministres du plan et de l'urbanisme. Gina Lawson-Rosalem, ministre de l'urbanisme et de l'habitat, avec Emmanuel Samboli.
Dans le cadre de cet accord de financement, je peux citer l'accord de financement pour la construction de l'hôpital de Pukandia que le chef de l'État a demandé d'édifier dans le 7e arrondissement, ce qui soulagera beaucoup nos populations pour les questions de santé, parce que c'est un service de santé qui est essentiel pour nos populations. Il a été également signé l'accord de coopération pour l'appui en financement de la clôture de l'université de Bangui. Le contrat vient d'être signé, ça va aller très rapidement. N'eût été les questions du contexte de crise sanitaire liée à la fermeture des frontières, mais l'État est en train de voir, je pense que les frontières bientôt vont être libérées et les bureaux d'études vont arriver pour pouvoir démarrer le travail. Mais en prélude du démarrage du travail par les bureaux d'études de faisabilité, nous allons organiser incessamment une visite interministérielle, le ministre du Plan, le ministre de la Santé et le ministre de l'Urbanisme qui est impliqué pour les questions de construction.
Lawson Rosalem, ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, les travaux vont débuté après la réouverture des frontières fermées à cause de la pandémie de COVID-19.
COVID-19 en République centrafricaine, il n'y a pas eu de nouvelles contaminations depuis 24 heures.
Oui, Verdiane, le pays compte à ce jour 4485 malades, 1348 guéris et 55 décès.
Le bilan mondial Rolf a franchi la barre des 14 millions de contaminations et plus de 600 000 morts.
Les États-Unis restent en tête avec plus de 1142 000 décès, suivis du Brésil, 79 000 morts depuis le début de la pandémie.
En France, le port du masque est obligatoire dans les lieux publics.
Cette décision du gouvernement français entre en vigueur ce lundi et ceux qui ne respecteront pas cette mesure devront payer une amende de 135 euros. Le pays compte 30 000 décès depuis le début de la pandémie.
La suite de ce journal nous conduit à Berberati dans le sud-ouest de la République centrafricaine. L'organisation des femmes centrafricaines OFCA s'investit pour l'enrôlement massif des femmes sur les listes électorales.
Elle a formé du 16 au 18 juillet avec l'appui de l'ONU Femmes 50 volontaires. Ceux-ci vont à leur tour sensibiliser la population à s'inscrire massivement pour participer aux élections en Centrafrique. Annette Priscilla Wango, première vice-présidente de l'OFCA, au micro de René Pierre Ndombé, notre correspondant à Berberati.
Présentement, dans la Mambéré KDI, il y a eu le déploiement des agents recenseurs pour que les personnes qui résident au niveau de la préfecture puissent aller s'inscrire massivement, c'est le mot, massivement, sur la liste électorale pour faire valoir leur droit de vote, leur droit citoyen. C'est de d'élire tranquillement, posément, leurs représentants au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau de la présidence de la République et très bientôt au niveau des municipalités. On organisera des élections et au niveau du sénatorial également, qui viendront et également permettre pour susciter des candidatures féminines, puisque nous pensons qu'au niveau de la République centrafricaine, les femmes constituent plus de la moitié, c'est 50, plus de 50%. Mais vous voyez, quand on fait les statistiques au niveau des différents postes de prise de décision, on voit qu'il y a un déficit de femmes. Il n'y a pas assez de femmes qui est représentée. C'est pour ça que nous voulons booster ces femmes à travers ces formations de certains présenteurs socioculturels qui les bloquent pour que d'ici 2020, quand nous irons aux élections, il y aura une forte participation des femmes dans le processus.
Actualité internationale en bref. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara pressenti pour être candidat à sa propre succession.
La disparition de son dauphin désigné, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, a rabattu toutes les cartes selon certains proches du parti au pouvoir. La candidature de Alassane Ouattara pour un troisième mandat ne fait aucun doute.
La page sport de cette édition, c'est d'abord l'Assemblée générale élective de la Fédération centrafricaine de football qui se tient en ce moment avec des recommandations.
Un seul point est à l'ordre du jour, le renouvellement du comité exécutif. Les délégués de Bangui et des provinces doivent élire leurs représentants pour un mandat de 4 ans.
Une seule femme, Rolf, a postulé pour devenir membre du comité exécutif. Il s'agit de Mariette Noubem Ewaton.
Oui, Verdiane, parmi les invités, on peut citer Gilles Gilbert-Gezé, président du Sénosca pour Régis Lionel Donda, ministre de la Jeunesse et des Sports. La priorité de ce bureau est de qualifier la RCA à la phase finale de la CAN 2021. Propos recueillis par Bienvenue Bélo.
L'équipe sortante s'est vraiment battue pour que cette Assemblée générale élective puisse se tenir à bonne date. Et donc ça, c'est vraiment un sujet de satisfaction. Et je demanderai aussi aux autres fédérations de regarder cet exemple. Je demande à tous les participants, candidats, tout le monde, de se comporter en grande personne pour ne pas qu'il y ait débordement, qu'à l'issue de cette Assemblée, notre pays puisse avoir une équipe dirigeante de la fédération digne de nous représenter. Mais également, j'en ai profité pour lancer quelques recommandations à la nouvelle équipe qui sera élue, de regarder de très près nos priorités de l'heure, à savoir l'aspiration persistante de la jeunesse centrafricaine qui a envie de voir son équipe nationale jouer la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Je leur ai rappelé la nécessité de bien travailler en utilisant de façon efficiente les forwards de la FIFA pour rendre vraiment le football national en Centrafrique.
Signalons que lors des travaux de cette Assemblée générale, le secrétaire général de la Fédération a expulsé les journalistes dans la salle.
Ce qui a suscité des réactions au milieu de l'Association des journalistes sportifs centrafricains. Après intervention du président de la Fédération, les journalistes vont être acceptés dans la salle après avoir passé plusieurs heures dehors.
Et puis la situation de la crise au sein de la Fédération centrafricaine de Taekwondo, le ministre des Sports a lancé des pourparlers pour trouver des solutions.
Des discussions qui ont démarré jeudi dernier au département de la jeunesse et des sports entre les protagonistes en présence du Sénosca pour Régis Lionel Donda. Les textes de base de cette fédération doivent être respectés, sinon le ministère prendra ses responsabilités. Et voilà, la connaissance n'est pas la sagesse n'est pas la vérité, l'information rend le monde meilleur. Restez branchés pour la version en langue nationale de ce journal.